France Culture.
Talmudique. Pascal Baquet, bonjour.
Bonjour Marc-Alain Wecknin.
Pascal Baquet, je suis heureux de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre conversation que nous avons entamée la semaine dernière autour de votre ouvrage qui s'appelle « Double, 13 poèmes de la Torah ». Vous avez choisi de traduire et de commenter plusieurs passages de la Torah. Et je rappelle d'abord que vous êtes poète et écrivain. Oui. Nous avons vu la semaine dernière la question du double. Qu'est-ce qui fait que dans la Torah, le poétique est une poétique du dédoublement? Vous nous l'avez expliqué, on va le revoir encore une fois aujourd'hui. Mais ce qui va nous intéresser, c'est votre démarche. C'est-à-dire que au lieu de traduire directement des textes de la Torah, ça aurait pu être un choix. Vous nous avez fait entrer dans votre laboratoire avec un texte en hébreu, puis une première transcription, c'est le terme que vous avez utilisé, puis une présentation, puis une traduction, qui est en fait votre création poétique. Et on verra qu'il y a un quatrième niveau, ou une quatrième partie, mais je laisse la surprise pour tout à l'heure. Et donc, venons-en à ce travail de traduction pour lequel vous utilisez cette belle formule « traduire, c'est rendre justice ». Plutôt que trahir, selon un dicton devenu populaire. Rendre justice à quoi? À qui, Pascal Baquet?
Je dirais rendre justice à cet infini dont nous parlions la semaine dernière. Rendre justice à la vitalité, à la vivance du langage. Et rendre justice à des versets qui, parce qu'ils se sont déployés poétiquement, requièrent toute une réappropriation vivifiante. Et il me semble que cette justice à rendre, elle est aussi une justice qu'on se doit à soi-même quand on est devant ces versets. C'est-à-dire qu'il est absolument requis, non pas « devine où je te dévore » comme disait le Sphinx, mais « devine », c'est-à-dire « devine à partir de toi-même et de ta propre langue et approprie-toi cette parole, fais la tienne ». Et il me semble que c'est ce que fait n'importe quel juif de l'étude quand il étudie. Simplement, il faut le, quand il s'agit de le passer à l'écrit, alors il faut une plus grande maîtrise et une plus grande conscience de ce qu'on est en train de faire, d'où ces étapes que j'ai projetées dans le livre. Oui.
Alors vous dites juif de l'étude, Lévinas disait toujours, et je suis d'accord avec lui, que quand on dit le mot juif, même juif de l'étude, ça a un sens universel. Le juif, c'est l'homme universel. Et j'ai l'impression que ce que vous dites dans cette réappropriation, ça me renvoie à cette histoire chassidique que j'aime beaucoup, où un élève vient voir son maître et lui dit « Rabbi, j'ai traversé 3 fois le Talmud », et le rabbi lui demande « Est-ce que le Talmud t'a traversé ?» C'est-à-dire que « Est-ce que tu t'es réapproprié la parole et l'interprétation de manière existentielle » C'est-à-dire que c'est pas simplement un exercice d'intelligence, mais c'est véritablement un exercice d'existence.
Absolument.
C'est-à-dire comment on est transformé par la parole de l'interprétation qu'on est en train de donner. Alors vous faites ce travail qui consiste à passer de l'hébreu au français et à faire entendre et résonner la nature de la langue hébraïque dans le français, deux langues différentes selon vous, et vous utilisez une métaphore florale pour nous en faire comprendre la différence, Pascal Baquet.
J'oppose le français comme langue éclose à l'hébreu comme langue en bouton. Tout le monde a en tête les fameux vers de Boileau. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. L'idée classique, qui a en vérité donné son destin à la langue française, puisque c'est quand même le classicisme, jusqu'à Baudelaire d'ailleurs, qui a nourri le devenir de la langue française, c'est cette exigence d'un sens transparent, qui a été si vantée dans la splendeur de la langue française, cette exigence de clarté qu'on trouve chez Descartes, qu'on trouve chez Baudelaire, et qu'on trouve même chez Mallarmé à certains égards, qui renvoie à ce que le dire soit entièrement déployé. Et il me semble que ça dit, puisque le problème d'un sens entièrement déployé, c'est que ça s'oppose à la vérité de la pensée, c'est que jamais la pensée n'est entièrement déployée. Donc, ça donne à la langue française, à cette exigence de clarté, qui nourrira sa splendeur et parfois sa misère, ça donne un caractère rhétorique à la langue française. Et je pense que c'est aussi très lié à la première vocation gallicane de la langue française comme langue idéale de l'Église, et d'une Église catholique dont les produits en langue française ont été considérablement rhétoriques, dans la plus haute rhétorique, la plus noble rhétorique, je pense évidemment à Bossuet, plus que dans le tâtonnement de l'étude qui concernera davantage la langue allemande à cause de Luther et du protestantisme. Donc, la langue française comme langue déployée s'oppose à l'hébreu qui, je dis, une phrase en français, est-ce qu'elle dit ? Une phrase en hébreu, est-ce qu'elle va dire ? Parce que, précisément, au contraire de cette exigence de transparence et d'exhaustivité du sens, tout est fermé. Tout est en bouton, d'où la nécessité de la métaphore florale. Tout est fermé parce que tout est donné à appropriation. D'ailleurs, j'ai en tête une phrase de Maïmonide qui dit que la coutume des sages est de parler de façon énigmatique. Ce caractère en bouton, ce caractère partiellement dit, qu'on trouve absolument dans les versets, on le trouvera aussi dans le Talmud. Donc c'est un invariant de la pensée juive qui ne s'ouvre que partiellement pour qu'un acte d'appropriation soit opéré par le récepteur de la parole. Et en l'occurrence, celui qui lit ces versets ou celui qui étudierait une page de Talmud. C'est de ce constat initial que je suis parti, et c'est ce constat initial qui a nourri en moi la nécessité de ces étapes successives, parce que je savais que le défi était considérable.
Vous désirez, par votre travail de traduction, faire résonner dans la langue française la langue hébraïque, c'est-à-dire redonner au français son statut ou un statut de langue en bouton. C'est-à-dire redonner de l'ambiguïté, de l'énigmaticité. C'est-à-dire pour retransformer cette langue où tout semble dit pour que cela devienne une langue de perspective, de projet, du à dire. C'est ça que vous avez voulu faire.
Oui, c'est pas le moment de la confidence, mais c'est vrai que ça nourrit cette question-là, que vous pointez très justement, nourrit mon projet d'écriture depuis toujours. Et c'est vrai que l'expérience sur le texte biblique lui a donné toute son ampleur. Bien sûr que le texte biblique est connu par la langue française. On parlait la semaine dernière des doubles, et j'ai en tête l'Athalie de Racine, qui dans ses chœurs, justement Racine, très subtilement, avait repéré le parallélisme et recourt à la rime d'idées. Bien sûr qu'il y a un lien de la langue française au texte biblique qui est extrêmement ancien, mais qui, à travers l'Église, est passé par le texte latin, par la Vulgate. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y avait pas des moines et des clercs qui s'affairaient au texte hébraïque, mais c'était dans le fond... Pour une langue aussi normative que la langue française, c'était marginal. Et donc, le lien de la langue française à la Torah est passé par le latin. Et donc, effectivement, c'était très important de tenter de faire revivre, de façon systématique, un lien à la langue hébraïque et à l'étrangeté que la langue hébraïque représente pour la langue française.
Est-ce que l'on peut dire que, même dans la langue française, les poètes, de manière générale, quand ils sont de véritables poètes, redonnent à la langue française sa dimension de boutons, c'est-à-dire que c'est aussi énigmatique, c'est aussi fermé pour que le lecteur ait la possibilité de l'interprétation. Et parfois même dans un roman, même si on ne va pas le relire mille fois, il y a des moments où le sens est fermé et, comme dit Rashi, dit Darsheni, dit interprète-moi. À ce moment-là, on pourrait dire aussi que dans le cadre du poème, en français, on a cette dimension boutonnante de la langue.
Bien sûr. Alors évidemment, on pense tout de suite à Rimbaud, évidemment, on pense tout de suite à Mallarmé, au premier temps de René Char, évidemment. Cette nécessité de fermer une partie de l'évidence, de fermer cette tendance à l'évidence, a joué un rôle immense. Peut-être que les dernières décennies nous ont éloignés de ça, et peut-être qu'un accueil de ce caractère énigmatique est plus difficile aujourd'hui. D'où la raréfaction du public poétique, qui ne doit pas poser problème à ceux qui la pratiquent.
Alors venons-en à votre pratique, justement, de la traduction. On a vu qu'il y a trois parties, et je crois que le plus simple, c'est de prendre un exemple d'un verset, de nous le lire en hébreu, et de nous montrer un petit exemple de chacune de ces parties. Alors commençons par le verset, vous allez nous dire lequel.
Alors c'est dans le cinquième poème qui s'appelle « La bénédiction d'une famille », et c'est la parole de Jacob sur son lit de mort, C'est une espèce d'étrange bilan ouverture, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il formule, dans ce qui est censé être une longue bénédiction, quelques blâmes et aussi quelques visions eschatologiques absolument inouïes. Et l'un des plus gâtés des 12 fils de Jacob, c'est celui qu'on appellerait Judas, Yehuda, il a droit à 3 versets, lui. Le premier verset dit ceci en hébreu, « Yehuda ata yoducha achecha, yadecha b'orefoy vecha, vishtachavu lecha bne avicha. » Vous avez entendu la quantité invraisemblable d'allitération et d'assonance dans ce verset. Ça arrive. Alors, c'est pas le matériau fondamental du poème biblique, hein. C'est bien la rime d'idée, mais il y a des moments où tout d'un coup, effectivement, la précipitation des allitérations.
Rappelez-nous juste la rime d'idée, parce qu'on l'a vu la semaine dernière.
C'est le dédoublement d'un même dire, enfin, d'une même idée qui se dit deux fois, et c'est cela qui est le cœur de la rythmique et même de la poétique fondamentale de la Torah. Mais aussi des psaumes et des prophètes. Systématiquement, on différenciera un verset narratif ou normatif d'un verset poétique par le fait que le verset poétique est explicitement dédoublé, qui dit deux fois, de façon différente, la même idée. Alors, si je lis la transcription de ce verset,
en précisant que transcription ici n'est pas le fait que vous transcrivez en lettres latines le texte hébreu.
Voilà. Oui, effectivement, j'ai intitulé cette partie transcription parce que c'est la première étape de mon travail sur le texte, c'est de faire passer en langue française, sans appeler ça une traduction, parce que je veux justement faire passer assez sèchement de la langue hébraïque à la langue française, sans flatter la langue française par la beauté poétique.
C'est presque du mot à mot, d'une certaine manière.
Voilà. Et ça donne ceci. Judas, toi, tes frères te loueront, ta main sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père ploieront devant toi.
Nous venons d'entendre le texte en hébreu. Vous nous avez transcrit ce texte, c'est-à-dire vous nous l'avez fait entendre mot à mot en français. Et ensuite, il y a une étape que vous appelez la transition. Dans cette transition, qu'est-ce que vous faites ?
Ce que j'essaye de faire, c'est un travail qu'on pourrait appeler un travail de bêta-midrash.
C'est-à-dire de maison d'études.
C'est-à-dire que je vais glaner autant que je peux chez les très grands commentateurs, beaucoup des grands commentateurs du Moyen-Âge, parfois aussi des textes midrashiques, donc des textes antiques. Donc je nourris ma compréhension de ces versets. J'ai besoin de nourrir ma compréhension de ces versets pour les véritablement les traduire au sens le plus fort du terme. Et puis aussi parce que j'ai conscience que ce qui s'est nourri autour de ces versets dans les maisons d'études est très différent de ce que la culture a pu retenir de ces versets. Et donc du coup, il faut, me semble, une espèce de sas, de passage entre le moment de l'exposition à l'étrangeté de la lettre hébraïque et le passage au poème. Il faut un sas d'explication, d'accueil du lecteur. Donc c'est à la fois pour moi et pour le lecteur que je fais ça, pour m'emparer du verset et aussi pour conduire le lecteur dans les laboratoires millénaires des maisons d'études. On a tramé sur ces versets. Et c'est après que le geste poétique, d'une certaine manière, se libère de ce sas en lançant comme une sonde le verset poétique dans la mesure où j'en suis capable. Voilà.
Alors il y a quelque chose de très intéressant dans le verset que vous avez choisi, particulièrement, en tout cas dans cette partie que vous avez choisie, car il s'agit, comme vous nous l'avez dit, de la bénédiction de Jacob à ses enfants.
Oui.
Et il va nommer chacun de ses enfants.
Oui.
Et nous, on est habitués, quand on lit les traductions en langue française,
oui,
même des traductions juives,
oui,
celles de Samuel Cahen.
Oui.
Samuel Cahen, c'est un peu différent, mais disons celle du rabbinat, par
oui,
exemple, que les noms étaient officiellement francisés.
Oui.
C'est-à-dire que Yaakov devient Jacob,
oui,
Yitzhak devient Isaac,
oui,
et on perd la dimension de l'hébreu, mais on perd surtout le sens étymologique,
oui,
que ces noms avaient à l'origine. Parce,
oui,
que dans le texte biblique,
oui,
tous les noms ne sont jamais donnés par hasard.
Oui.
Il y a dans chaque nom un projet,
oui,
pour reprendre le sens de la Torah que vous avez évoqué la dernière fois,
oui,
et vous faites un très grand travail sur la recompréhension,
oui,
de chaque nom, et je voudrais quelques exemples.
Bien, oui, le luxe de ces étapes successives, je peux me permettre de traduire les noms propres en les renvoyant sur leurs racines. Par exemple, Jacob. Donc Yaakov, étymologiquement, ça renvoie à Aikev, qui veut dire le talon. Mais on a nommé Jacob en disant « Ya'ak veni zepa amaim ». Jacob est un frère jumeau. Il a un frère jumeau qui le précède et qui est Ésaü. Et Jacob naît aussitôt après Ésaü. Et on l'appelle Yaakov parce qu'on dit « Celui-ci va talonner deux fois ». Alors, mystère de ce deux fois. Mais n'empêche que ce qui s'exprime dans Jacob, c'est cette idée de talonner. Or, depuis la matrice, ces deux frères sont destinés à un entremêlement et à une lutte qui est prophétisée justement dans un des poèmes que je traduis, qui est le quatrième. Il y a donc cette espèce de poursuite de son frère aîné par Jacob, qui va se continuer dans leur vie, dans la narration de leur vie. C'est pour ça que j'appelle Jacob l'avide. Et c'est d'autant plus important que dans la destinée de Jacob, Jacob va porter deux noms. Il va porter le nom de Jacob et il va porter le nom d'Israël. Il y a en vérité une dialectique entre ces deux noms. Parce que Jacob, c'est celui qui talonne, qui court derrière et puis qui veut, qui est profondément avide. Avec aussi, entre parenthèses, dans le récit biblique, tout ce qui pourrait évoquer une espèce de noirceur du personnage. Et les versets sont justement fabuleusement ambigus. Quand on lit la narration de la vie de Jacob et Ésaü dans leur enfance, on a l'impression que Jacob, c'est celui qui tout le temps là en train de vouloir grappiller et qu'Ésaü, c'est le bon gars. Et vous imaginez, entre parenthèses, les répercussions vertigineuses sur l'imaginaire collectif depuis les siècles que ce texte se lit. Et puis, Israël, au contraire, ça signifie « tu as été prince » avec Dieu et avec les hommes. Et c'est pour ça que j'appelle Jacob le prince.
Et alors Jacob, vous l'appelez l'avide.
Voilà, et Israël le prince.
Oui, donnez-nous encore un autre exemple de prénom.
Alors justement, dans le verset que j'ai lu en hébreu, là je suis allé un peu fort, mais j'ai osé. Yehuda, il est nommé par sa mère au moment où elle, par Léa, au moment où elle lui donne naissance, et où elle va louer Dieu, parce que le hodot, ça veut dire marquer sa reconnaissance, louer, mais formuler une reconnaissance. Par ailleurs, là pour le coup, j'ai intégré aussi la question de l'histoire. De Yehuda, on a tiré évidemment Judas en langue française. Joliment, on traduira Judas, le Judas biblique J-U-D-A. Et le Judas évangélique, on l'écrira J-U-D-A-S. Mais il n'empêche que c'est de là que le mot juif est né, avec aussi toutes les vicissitudes que ce nom a vécues.
Qu'on retrouve en allemand, par exemple, voilà. Jude.
Jude, absolument. J'ai voulu donc marquer les deux étapes, celle de la nomination d'une part et celle de la destinée de ce nom à travers les siècles. C'est pour ça que quand je traduis Yehuda, je le traduis d'abord « loue Dieu ». Les 12 noms des fils de Jacob dans cette bénédiction, c'est toujours « Jéacol », le verbe, puis Dieu, parce que dans tous ces noms, il y a des racines du nom divin. Et par ailleurs, aussitôt après, je l'appelle au juif. Et donc là, j'assume la désignation de Yehuda comme juif.
Donc, après la transition, vous nous expliquez tout ce travail que vous faites, par exemple, sur ces racines pour comprendre les noms.
Oui.
On arrive à la troisième partie,
oui,
qui s'appelle la traduction,
oui,
mais qui est en fait votre traduction poétique du verset,
tout à fait,
où vous intégrez tout ce que vous avez découvert dans votre laboratoire.
Exactement.
Ce qui va donner dans le verset que vous nous avez lu au départ. Donc moi, j'aimerais que vous nous relisiez le verset de départ dans sa transcription et que nous entendions ensuite le verset dans votre traduction poétique, Pascal Bacquet.
Donc, dans la transcription, le verset donnait « Judas, toi, tes frères te loueront. Ta main sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père ploieront devant toi. » Là, c'est traduction littérale, et toutes les allitérations initiales ont été effacées. Quand j'en viens à la traduction, ça donne « Juif, en jubile tes frères, et habile, tu sers, jugule, débile l'adverse, et s'incline vers toi tous les fils de ton père. » Thank you.
sonate pour violon seul de Jean-Sébastien Bach. Pourquoi avez-vous voulu nous faire entendre cette musique, Pascal Baquet?
D'abord, en écho avec le choix que j'avais proposé la semaine dernière de Syrinx de Debussy, parce que dans les deux cas, ce sont des œuvres d'immenses compositeurs orchestrateurs qui pourtant, là, composent leur musique pour un seul instrument. Et parce que justement, il me semble que ce passage qu'on vient d'entendre illustre aussi ce dédoublement qui était déjà à l'œuvre chez Debussy dans la répétition d'une mélodie, mais qui est encore plus saillant chez Bach, parce que ce qui est quand même délirant, c'est qu'avec les quelques cordes d'un violon, il arrive à produire du contrepoint dans cette musique. Ces effets de réponse, on a l'impression tout d'un coup que de cette seule petite voix maigrelette du violon, tout un édifice et toute une chambre d'écho se dessine.
Pascal Baquet, nous venons d'entendre votre explication sur les différentes étapes que vous avez choisies de nous faire découvrir dans votre travail de traduction, dans votre laboratoire de traduction. On a parlé de trois étapes, mais en fait, il y en a une quatrième, que vous appelez extrapolation, dans laquelle vous faites parler la langue sous le titre « La langue parle », prosopopée, dans laquelle on retrouve les accents du souffle biblique et du bateau ivre de Rimbaud qui, pour l'anecdote, est écrit de droite à gauche comme le sens de l'écriture hébraïque sur les murs de la rue Férou dans le 6e arrondissement à Paris. Je l'ai découvert à quelques mètres de l'église Saint-Sulpice et vous m'avez dit à quelques mètres de votre premier éditeur.
Oui.
Rimbaud, un poète souvent convoqué dans votre poétique, quel est le projet de cette quatrième étape, de cette extrapolation, Pascal Baquet, de cet au-delà du poème, si l'on peut dire, pour paraphraser Lévinas et son génial au-delà du verset?
Je sais que cette quatrième partie est déraisonnable, déjà, parce qu'elle, je m'empare du destin de la langue. Mais bon, c'est la liberté déraisonnable et irresponsable dont n'importe quel poète peut se targuer. Donc, je l'ai osé et justement, je voulais raccompagner le lecteur de langue française à une méditation sur sa langue propre, à savoir sur le français, une fois exposé, en pleine lumière, si je puis dire, à la différence extrême de l'hébreu. En gros, faire entendre à la langue française qui fut une langue, je ne crois pas qu'elle le soit encore, une langue de la puissance politique la plus extrême, souvenons-nous de Louis XIV, mais aussi de Louis XIII, de Richelieu. Et c'est ce moment-là où la langue française était à son maximum, on pourrait presque dire à l'hubris de son orgueil. Comment cette exposition à une langue, au contraire, si contournée et si énigmatique, peut faire naître chez le lecteur, possesseur de cette langue, une méditation sur le destin de sa propre langue. Et pour moi, méditer sur le destin de cette langue, ça n'est pas nécessairement être un pessimiste. Au contraire, je crois qu'il y a un pessimisme joyeux, on sait, c'est un topos. Il me semble que raconter une espèce de déconvenue de la langue française devant le fait qu'elle est égarée, si je puis dire, face à l'hébreu, c'est pas lui mettre la tête sous l'eau, c'est au contraire lui offrir, peut-être, comme nous pouvons tous le faire à notre mesure, l'occasion d'une renaissance par d'autres voies. Et ça, c'est le plus déraisonnable, oui, de mon projet, mais c'est celui par lequel j'ai voulu terminer le travail de traduction.
Alors, et en même temps, j'ai l'impression que on peut dire aussi l'inverse, c'est-à-dire que l'hébreu, d'une certaine manière, qui est cette langue en bouton dont vous avez parlé, peut elle-même devenir une langue où tout est dit. Et la manière dont vous avez traité la langue française à partir de l'hébreu, faisant de la langue française une langue réveillée par l'hébreu, en retour, peut être une langue française qui va réveiller l'hébreu, c'est-à-dire réveiller l'hébreu dans l'étude. Parce que quand on traduit Caïn par Caïn, on se retrouve effectivement dans « L'œil était dans la tombe et regardait Caïn », et on oublie, comme vous le dites, que Caïn, en hébreu, vient du verbe kaniti, qui veut dire « soit j'ai acquis, soit j'ai fabriqué », comme Dieu dit « koné olam, j'ai fabriqué le monde ». Et donc, d'une certaine manière, votre poétique, dans le français, va réveiller l'hébreu, dont certains oublient, parce qu'ils ne sont pas dans l'étude, que c'est une langue qui se travaille, justement, pour non pas être dans le dit, mais dans le « à dire ».
Exactement.
C'est-à-dire par ce projet et cette projection de l'étude. C'est-à-dire que là aussi, vous nous rappelez l'essentiel de la question de la lecture, de l'interprétation.
Oui.
Et ce qui est beau dans ce que vous dites, qui rejoint un petit peu ce que dit Rosenzweig parlant de la vérité, il y a deux voies, la voie juive, la voie chrétienne. On peut dire ici que votre travail, c'est qu'il y a deux voies pour réveiller la langue, les langues, l'hébreu et le français, Pascal Baquet.
Oui, je souscris entièrement à cette proposition. Et pour le coup, on est là même au-delà de la seule question poétique, parce qu'effectivement, le texte biblique, comme le texte talmudique, a toujours immensément gagné à son exposition à d'autres langues, à des langues qui produisent des concepts que l'étude juive peut s'approprier en les renouvelant, comme effectivement elle échappera à la fatigue de l'annonnement et de la répétition par l'exposition à cette étrangeté qui est cruciale. Dans le fond, la thématique de l'étranger est si essentielle dans la Torah. Souvenons-nous des versets qui disent « Vous n'opprimerez pas l'étranger parce que vous étiez étranger en terre d'Égypte ». Cette exposition à l'étrangéité, elle n'est pas seulement une affaire de charité et une affaire de
d'éthique.
Vie sociale, mais elle est en vérité au cœur de la question du sens.
Et de la langue.
Et de la langue.
C'est-à-dire qu'en fait, l'hébreu est une langue, peut-être une langue bouton,
oui.
Mais une langue qui appelle une autre langue.
Oui, oui, tout à fait.
Et on peut penser à Binyamin. Et quand on parle de liberté, égalité, fraternité, on peut l'entendre non seulement d'un point de vue social, mais d'un point de vue linguistique. La liberté que chaque langue qui est parlée, étudiée, nous offre une liberté. Il y a une égalité de chaque langue, c'est-à-dire une beauté de chaque langue, et il faut trouver dans chaque langue ce qui est sa spécificité pour en dévoiler la beauté. Mais il y a une fraternité des langues. Et c'est peut-être cela qui est la découverte que vous nous offrez dans ce livre. C'est pas un livre sur l'hébreu, c'est pas un livre sur le français, c'est un livre sur la rencontre fraternelle entre l'hébreu et le français. En tout cas, c'est comme cela que je l'ai entendu et que je pense que de nombreux de vos lecteurs l'ont entendu.
C'est tout ce que peut, pour l'humain, celui qui se voudrait poète. Vous avez parfaitement raison.
Alors, ce qui est intéressant, justement, dans cette fraternité ou de cette rencontre entre l'hébreu et la langue française, vous avez eu la chance extraordinaire que un grand écrivain français, Pierre Michon, vous ait fait une magnifique préface.
Oui, absolument.
Et donc, c'est là aussi, au niveau des hommes, une rencontre fraternelle. Et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de Pierre Michon et de la manière dont Pierre Michon a ressenti votre livre, dont il dit quand il l'a reçu que c'est le meilleur roman de la rentrée. Il a cette phrase que peut-être vous pouvez commenter. Il nous dit que le judaïsme, c'est le roman. Parce que il le dit, il l'explique.
Oui.
Parce que il y a du suspense. Parce que lisez-nous peut-être la phrase.
C'est un roman juif, universel en quelque sorte, si l'on admet que l'idée de monde découle de la Genèse biblique. L'histoire juive a lancé le roman à peu près dans les mêmes dates qu'Homer. Et le judaïsme a en commun avec le roman d'être une énergie tendue dans l'attente d'un dénouement heureux, toujours reporté, messie, royaume ou temple éternel. Ce n'est pas très bien défini dans l'intellect du catholique que je suis. Le judaïsme est un roman.
Alors qu'est-ce qu'il veut dire par « le judaïsme est un roman » ?
Il parle de son point de vue, et je dois dire je trouve ça absolument merveilleux parce qu'il est un très grand écrivain, et que ce à quoi il a affaire dans son parcours admirable, c'est la question du roman. Et donc il parle de son lieu propre. Et son lieu propre, c'est un lieu dans lequel, comme son dernier livre l'a montré, le rapport à l'origine est toujours absolument crucial. Michon est un écrivain mythologique, dans La Grande Bohème évidemment, dans ses textes médiévaux. On voit très bien que la prose de Michon est une prose qui bascule systématiquement presque dans le mythe. Et donc chez Michon, il y a cette inscription cruciale dans le mythe grec, mais aussi d'ailleurs dans ce caractère mythique qui est lié à ses origines paysannes, où il a découvert que sa grand-mère disait Jove, et Jove c'était manifestement Jupiter, Jove en latin. Donc il y avait des traces jusque dans la Creuse de l'ancienne religion latine. Et puis chez lui, alors qu'il y a cette espèce d'affirmation grecque chez lui, et païenne, solairement païenne, eh ben, il y a une attention tout aussi fascinée et tout aussi bienveillante, précisément, à l'égard de l'extrême opposé, et donc à l'égard du sensé biblique, comme disait Lévinas. Et c'est extraordinaire de voir, en tout cas, moi, j'ai vécu comme un cadeau effectivement merveilleux cette préface. Je le connaissais pas. Il a reçu le livre par la poste et puis il a merveilleusement réagi. Mon éditeur lui avait proposé et il l'a fait avec une très très grande grâce. Et ce vieux bonhomme est un grand vivant. Et j'ai eu le bonheur de le voir plusieurs fois dans sa petite maison et de voir ses yeux pétiller d'intelligence et de drôlerie. Et donc il y a une vraie camaraderie qui s'est instaurée entre nous, effectivement, depuis ce travail. Pour finir, je voudrais vous lire ce petit passage de la préface de Pierre Michon que je trouve extraordinaire. « Le nom qui manque, les Juifs l'appellent le nom. Ce nom a écrit le monde, car l'idée de monde découle de la Genèse biblique écrite. Le monde, n'était-il pas là avant, dira-t-on ? Ce n'était pas le monde, c'était la nature. Le monde découle de la lettre. La lettre est ce qui dit non à la nature, du nommé et non du naturé, de l'étudié et non de l'inné. »
Merci Pascal Baquet pour cette deuxième semaine de conversation.
Grand merci à vous.
Je rappelle le titre de votre livre, Double, 13 poèmes de la Torah, avec une très belle préface de Pierre Michon. C'est aux éditions Elliott. Merci encore Pascal Baquet.
Merci, merci.
C'était Talmudic, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Noé Chaban, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudic. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.